I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode numéro 123 du Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est l'émission où on vous résume généralement l'actualité tech, internet et gadgets. On vient d'habitude toutes les deux semaines. Là, il faut avouer que c'est une session un petit peu particulière depuis quelques semaines parce que entre mes voyages nippons et Noël et tout ça, on n'a pas forcément eu le temps d'enregistrer les épisodes classiques d'actualité. Mais ça ne veut pas dire qu'on vous oublie. Vous le savez, chers auditeurs adorés, j'essaye toujours de vous fournir un petit épisode, d'en rater le moins possible ou en tout cas de vous préparer des épisodes spéciaux quand je ne peux pas enregistrer avec l'actualité du moment. Et aujourd'hui, nous avons encore une fois un épisode spécial en cette presque veille de Nouvel An, au moment où on diffuse l'émission en tout cas, avec des invités de marque qui vont vous parler d'une expérience un petit peu particulière que peu de gens ont vécu proportionnellement à la population du monde, hein, on va dire. C'est-à-dire que j'ai avec moi Cédric Bonnet et William Abisrohr.
Et on a couché ensemble. Ok, c'est vrai, par rapport à la population mondiale.
C'est vrai que peu de gens ont vécu l'expérience de coucher avec William Abisrohr Cédric Bonnet.
Tu vois voilà.
Non mais William, je dis pas ça pour moi. Ce que je veux dire, c'est par rapport à la population mondiale.
Ah oui.
Il y a quand même un pourcentage assez faible de gens.
On parle pas de la population de Paris, tu vois.
Oui. Mondial. Non mais là, ça serait beaucoup plus. Eh ben, dites-moi, ça commence bien. Hein.
Ah voilà. Ce qu'on va
dire avant tout, chers amis, c'est d'abord un joyeux Noël un petit peu en retard à nos auditeurs.
Oui. Joyeux Noël.
Voilà.
Si vous avez offert le Père Noël comme cadeau, juste pour...
plein de choses.
Plein de choses, ça a été génial. Ah, ben.
Vous l'aurez compris, on enregistre un petit peu avant Noël, donc on ne sait pas encore ce qu'on a eu pour Noël, mais on est sûr que c'est des choses magnifiques. Et aussi, on dit à nos chers auditeurs, bonne année.
Ah oui,
puisque dans deux jours, c'est
à deux jours près, oui.
Oui, à deux jours près, et accessoirement, des gens nous auront peut-être écouteront peut-être après. On a un mois pour dire bonne année, donc si vous écoutez avant le 31 janvier 2014, bonne année. Et puis sinon, tant pis pour vous, vous aviez qu'à écouter plus tôt.
Voilà, c'est ça. Il y en a peut-être qui vont l'écouter d'ailleurs le soir du 31, on sait jamais.
C'est possible, des gens qui ont... Mais tu sais que moi, il m'est déjà arrivé de passer le soir du 31 chez moi tout seul à jouer à des jeux vidéo, et c'était une super soirée.
Oh, quelle vie palpitante.
Mais n'est-ce pas, vois-tu. En l'occurrence, il se trouve que là, je suis en Finlande au moment...
Oui, puis t'es marié, quoi, donc bon...
Oui, c'est ça.
Donc c'est difficile de le passer tout seul, quoi. Donc, tu voudrais, mais tu peux pas, quoi.
Donc, écoute, c'est vrai que depuis que je suis marié, évidemment, les choses ont beaucoup changé. C'est pour ça que tu te maries pas, toi, Cédric.
Ah, mais exactement.
Tu veux garder la fraîcheur de la vie en couple.
Exactement.
Donc, on va vous parler de crowdfunding. Mais bon, c'est vrai que le crowdfunding, comment ça s'appelle, le financement collectif
participatif,
d'accord. Le financement participatif en français, c'est une chose dont on entend beaucoup parler. Et je suis sûr que entre le moment où on enregistre et le moment où on diffuse, il y aura encore beaucoup d'informations et de débats autour du financement participatif. C'est une méthode de financement qui a vraiment le vent en poupe en ce moment et a raison, parce qu'il y a beaucoup de projets très intéressants qui ont été fondés avec cette méthode. Mais on n'a pas eu beaucoup d'écho de la manière dont ça se passe pour ceux qui ont utilisé ce financement participatif pour financer des projets. Et justement, Cédric et William, vous avez tous deux utilisé Ulule, bon, il trouve que c'était Ulule, pour financer les saisons 2013-2014 de vos podcasts. C'est bien ça, hein, je dis pas de bêtises.
De nos émissions, même, plus précisément.
Oui. De vos émissions, c'est vrai.
C'est plus qu'on... du podcast,
Cédric,
oui,
Cédric qui dit.
Au-delà du podcast.
C'est vrai, c'est vrai. Cédric. C'est, vous avez dépassé le podcast.
Ah,
c'est
mais très bien. Voilà.
Et donc, bon, moi, j'ai participé à vos, oui. à, modestement, hein, parce que je suis pas très riche, mais j'ai participé et je suis très heureux d'avoir participé à vos émissions, enfin au financement de vos émissions.
Et donc,
je pense qu'il serait intéressant d'en savoir un petit peu plus sur tout ça. Alors, on va essayer plus ou moins. L'idée de base, c'est de structurer l'émission avec du avant, pendant et après, avec toutes les surprises que vous avez eues, les difficultés peut-être, les choses que vous attendiez pas, pour faire vivre ça un petit peu de l'intérieur aux auditeurs. Et puis bon, évidemment, hein, moi, je fais encore du podcast, tout bête. Donc, si jamais les conversations
non,
partent dans
pas
des
sur
directions. Non, même pas. Je suis pas sur ça, sur ça.
Ah ouais, donc
je fais
oui,
de la résistance.
Vraiment uniquement en podcast.
C'est vrai, ouais, ouais. Enfin, diffusé sur le site web, bien sûr aussi. Donc. Et donc, si jamais les conversations partent dans d'autres directions, évidemment, on ne s'en offensera pas et on ira là où la conversation nous mène. C'est un petit peu le principe. Donc, écoutez, messieurs, commençons immédiatement avec l'avant. Avant de lancer votre projet sur Ulule, que ça soit pour la création du compte, la préparation des différents paliers, ce que l'excitation qu'avait généré ce projet, peut-être avec vos équipes ou vous-même quand vous avez commencé à y penser, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez des anecdotes sympathiques à raconter? Premier qui commence, c'est lui qui a la parole.
Ah bah c'est Cédric parce que c'est lui qui l'a fait.
Trop tard, c'est toi le premier.
Ah non merde.
T'as parlé, c'est toi.
C'est très très fort, bravo. Mais non, mais c'est Cédric qui a commencé en premier, parce que bon, je vais commencer, tant pis, c'est pas grave. Vous m'avez donné la parole, allez, j'y vais. Pour commencer, moi je pense que a priori, je pense qu'on a eu l'idée. Bon, Cédric a dû avoir l'idée un peu plus tôt que moi, mais on s'est chevauché.
Vous avez commencé à y penser d'ailleurs, parce que
on
vous
s'est
avez
chevauché,
fait...
oui, c'est un peu. Ouais. Comme
on revient à ce dont on parlait au début de l'émission.
Même s'il n'est pas à Paris, on peut se chevaucher, tu sais.
Rappelons peut-être les dates de vos Ulule. C'était pendant l'été, n'est-ce pas?
Alors pas moi, c'était avant.
Voilà.
D'accord.
Cédric, c'était juste avant.
Ouais, courant mai.
Et moi, ça a été pendant l'été. Donc, ça, c'est en fait, moi, j'ai fait juste après Cédric, mais je me rappelle avoir contacté justement Cédric avant que tu le fasses pour potentiellement faire de façon regroupée un Ulule. Finalement, on a décidé chacun de faire notre côté. Je pense que c'était la meilleure des solutions finalement. Et je pense du coup, voilà, on a eu l'idée plus ou moins au même moment. Ça, on commençait à en parler un peu partout. De toute façon, ça commençait
oui,
vraiment.
Oui, c'est sûr que c'est pas la voilà. C'était pas d'une originalité.
Non, c'était pas d'une originalité folle.
Incroyable, ouais.
Pas du tout. Et sachant que pour financer une émission comme ça sur le web, il y avait déjà Babozor qui l'avait fait il y a un an.
Mais hein, oui,
vendre à César ce qui appartient à Babozor.
Et même le Captain Web, bon, il n'a pas utilisé une plateforme de.
Oui,
de
c'est différent.
Participatif,
là, on n'est pas. Ouais, mais. Bon, ouais, c'est là que ça diffère un peu du crowdfunding dans la définition même. Puisque, tu vois, il y a une différence qui est que notre projet Ulule est encadré par les règles qu'on a définies nous au départ. Dans ce qui se passe avec la période du Capitaine, qui est un abonnement, il n'y a pas spécialement de finalité ni d'explication claire de ce qui va être fait de l'argent après, tu vois.
Nous, c'est vrai que toi, Cédric,
pour un projet, donc voilà.
Cédric, t'avais mis des explications très précises de l'utilisation de chaque montant, de chaque somme d'argent. C'était une volonté dès le départ,
Alors en fait, c'est bon, il faut savoir que d'abord, quand j'ai proposé ça à l'équipe, tout le monde n'était pas d'accord.
Ah oui?
Ah oui.
Pareil de mon côté. Hein,
certains étaient pour, d'autres étaient contre, dans le sens où il y avait un problème d'appartenance de l'émission. Ceux qui s'y opposaient, en fait, se disaient, oui, mais voilà, l'émission, maintenant, nous appartient plus, elle appartient aux gens qui ont financé. Sauf que ce que j'ai expliqué, et c'est pour ça que le projet était bien cadré, c'est que non, l'argent que les gens nous ont donné sert uniquement à ce qui est dans le cadre du projet. C'est-à-dire que il était aucunement question à quel moment que ce soit que les gens deviennent producteurs. Ils nous ont aidés à acheter des choses ou à faire des choses, mais certainement pas à produire l'émission. La preuve en est, c'est que, alors moi c'est un peu différent de Will, mais toute la partie production, donc vraiment je fabrique Geeking. Ça, il n'était pas question que je la finance, puisque j'avais d'autres solutions à côté. Il n'était pas question que je la finance, moi, par le Ulule. Tout ce, enfin, mon projet.
Donc pour
de
toi,
base,
c'était juste du matériel et de l'hébergement et des serveurs et ce genre
ça.
De choses.
Voilà. Et même du matériel, ça a été uniquement dans les paliers supérieurs, du matériel pour le live et ce genre de choses. Mais in fine, tu vois, on n'a pas acheté une seule caméra ni quoi que ce soit avec.
Donc ça, c'était une vraie volonté à la conception.
Une volonté pour qu'on. En fait, c'était pour rassurer aussi les gens chez nous en interne dans l'idée de, ben voilà, l'émission n'appartient à personne. Aujourd'hui, finalement, il n'y aurait que le moyen de diffusion qui appartiendrait éventuellement aux gens qui ont donné de l'argent dans le Ulule. Et ça s'arrête là, en fait. C'était plus pour les rassurer dans le sens, non, ils ne deviennent pas producteurs. À la limite, ils nous aident à la diffusion, donc ils pourraient prétendre à être diffuseurs. Mais ça s'arrête là, en fait.
Ouais, d'accord.
Alors, faut aussi rappeler, si je peux me permettre, faut aussi rappeler, parce qu'on l'a pas dit, mais il faut quand même être honnête aussi. Pourquoi on a fait ça? C'est fait suite aussi à l'arrêt de No Watch. Il fallait aussi qu'on trouve des solutions. Parce que ceux qui nous écoutent, ça peut-être pas nécessairement, mais c'est vrai que le déclencheur, je pense, ça a été aussi effectivement l'arrêt de No Watch, où il a fallu reconcevoir, nous, la façon dont on allait produire nos émissions, comment on allait les produire, avec quel matériel et comment les diffuser. Dans le cas de Cédric, c'était encore plus le cas, puisqu'effectivement, il souhaite diffuser toujours via ses serveurs. Moi, je me suis dit que c'était trop compliqué. J'allais pas me compliquer la vie là-dessus, donc nous, on est plutôt allé sur YouTube. Mais,
et SoundCloud.
Et SoundCloud, effectivement, sur des plateformes qui nous permettent de déléguer, on va dire, un petit peu tout l'aspect technique, c'est beaucoup plus simple à gérer.
C'est vrai que certains ne le savent pas, mais à l'époque de No Watch, effectivement, No Watch se chargeait de tous les frais de diffusion qui peuvent être assez élevés, surtout pour des émissions vidéo. Est-ce que, donc, on peut le rappeler peut-être aux auditeurs, William, toi, tu as levé 4 300 €, je crois.
Ouais, 4 100 ou 4 300, je crois exactement.
Cédric,
ouais, un peu plus de 4 000.
T'étais un petit peu plus haut, t'étais à 12 000, 11 000, 13 000.
13 300 et quelques, je crois, un truc comme ça.
Donc, quand vous avez eu l'idée lumineuse de faire financer la saison suivante de vos émissions par financement participatif, à partir du moment où vous avez donc ce projet, quelles sont les étapes suivantes? C'est l'établissement de ce dont vous avez besoin, des différents paliers, etc. Ça a été naturel?
Ce dont on avait besoin, c'était facile à définir. Je pense que c'est pareil pour toi, Will.
En tout cas, moi c'était encore différent, j'en parlerai c'est vrai que moi c'était une situation un petit peu différente, parce que du coup on n'allait pas financer nécessairement les mêmes choses et on n'avait pas la
toi c'était pas la diffusion que tu finançais. Voilà. C'est vrai que nous on savait que voilà, on avait besoin de X machines pour que ça se passe bien et que les gens puissent télécharger l'émission correctement. Donc du coup on savait déjà ce qu'on voulait. Après on arrive dans une phase, enfin moi en tout cas avec Geeking, je vais arriver dans une phase où je me suis dit bon, très franchement, au tout début, je pensais qu'on n'y arriverait pas au premier palier.
Vraiment,
je me suis dit, vraiment.
Tu pensais vraiment que vous y arriviez?
Pas au premier palier. Ah oui, mais complètement. Et pour te dire même, on s'est fixé un palier qui était 3200, je crois. Le premier palier, ou 3500, je sais plus, qui correspondait en gros à 3 machines, je crois.
Ouais. Entre parenthèses, on s'excuse auprès des auditeurs, la connexion de Cédric, pour une fois, c'est free. Et donc, ça saute un petit peu, quoi. Ouais. Ouais. Enfin, on pense que c'est à cause de Free, hein. Ça se trouve, c'est pas ça, mais.
Mais bon, pas les accuser quand même.
Il est de bon ton. Il est de bon ton de taper sur Free. Voilà.
Oui, voilà. Mais, oui, pardon, continue, Cédric.
Et donc, oui, donc, on pensait vraiment, enfin, moi, en tout cas, j'avais un doute sur le fait qu'on y arrive. Et en même temps, je me suis dit, si jamais ça marche, il faut qu'on prévoie l'après. Et c'est pour ça que, alors, c'est assez prétentieux de dire ça, mais j'avais prévu 6 paliers, en me disant, mais voilà, l'étape suivante, on rajoutera une machine. L'étape d'après, on fera des lives avec de meilleure qualité d'image. L'étape d'après, on va proposer des applications et tout ça. Je me suis dit, alors, soit ça va motiver les gens à donner plus pour essayer d'atteindre des paliers, soit je me plante complètement et c'est pas grave, si j'atteins au moins le premier palier, je suis content.
Ouais.
Et parce qu'en fait, il y a deux choses, hein. Il y a les paliers et ensuite, il y a les niveaux de dons qu'il faut définir. Et le plus dur, c'est pas les paliers que tu dois atteindre et tout ça, c'est plus... les dons et ce à quoi ils donnent droit. Ça a été le plus difficile pour moi.
Les contreparties.
Ça se passe comment techniquement tout ça sur le site de Ulule? Tu crées ton compte.
Quand tu soumets un projet, alors faut savoir que Ulule n'accepte pas tout. Hein.
Mm-hmm. Ah oui,
moi j'ai été retoqué 2 fois quand même.
Ah oui, d'accord.
Pas moi.
Enfin, pas retoqué, hein. Ils ont accepté le projet, mais ils m'ont dit qu'il faut modifier ça.
Oui, pareil.
Voilà.
Et fallait, c'était quoi les choses? Justement, là, ça devient intéressant. Alors, ça nous fait vivre de l'intérieur, justement.
Ouais. Moi, ce qu'ils m'ont demandé de modifier, c'était au niveau des dons. J'avais pas mis de palier à 100 euros. Et ils m'ont dit, tu devrais en mettre parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent 100 euros.
Ah oui?
Alors, j'y croyais pas trop. Ouais. Parce que moi, je passais genre de 75 à tout de suite à beaucoup plus, à 250, je crois. Mmh. Vas-y, non, mets un palier à 100, tu vas voir, ça marche mieux. Et dans la pratique, ça s'est avéré. Je pensais pas, tu vois, très franchement. Donc, il a fallu que j'invente un truc. Et aussi, ils m'ont demandé de modifier, qu'est-ce que c'était? Non, après, c'était juste au niveau des intitulés des contreparties, pour éviter qu'il y ait trop de répétitions. Enfin bon, c'est un détail, plus mise en forme, là, mais voilà.
Il regarde vraiment tout le projet.
Il vérifie tout de A à Z, il lise tout. Ils sont effectivement. Moi, j'ai eu pareil. Hein, ils m'ont demandé de mettre beaucoup plus de paliers, parce qu'a priori, ils ont des statistiques et ils connaissent un peu les réactions des gens sur les projets. Et dans l'ensemble, pour être tout à fait honnête, enfin moi, j'étais très satisfait. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler, mais j'étais très satisfait par Ulule, parce qu'il y a un vrai, il y a un suivi du moment où on propose le projet jusqu'à la toute, même jusqu'après d'ailleurs. Jusqu'après, on en reparlera. Mais il y a un vrai suivi, ils sont disponibles, réactifs, on peut leur poser des questions, ils nous aident vraiment, ils sont là vraiment, enfin c'est pas, et c'est, moi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est on n'a pas ce côté, là aujourd'hui encore je me suis un peu énervé avec Facebook parce que j'arrivais pas à faire une modification, il faut envoyer tout un dossier, on n'est pas sûr qu'on va être accepté, là il y a ce côté vraiment de discussion, on peut leur demander des choses, ils nous répondent en cours de projet.
C'est une société qui est beaucoup plus modeste que Facebook quand même, il faut...
Non, mais, évidemment, mais ce que je veux dire c'est que nous dans notre situation, c'est vrai que c'est très agréable parce qu'en plus c'est une société, bon, ils parlent, enfin ils sont français, il y a des français, on a des réponses très rapides, on a quelqu'un qui nous suit tout le long, c'est agréable et c'est confortable pour pouvoir travailler. Dès qu'on a des, on n'est pas sûr de ce qu'on va faire, on souhaite modifier quelque chose en cours de route, on a des questions, ils sont vraiment là, c'est vrai que c'est très appréciable.
D'accord, donc vous créez votre projet sur Ulule, vous ouvrez le compte, ils vous soumettez le projet, ils vous disent non, ça faudrait changer, ça faudrait modifier, ça va pas. Mm-hmm. À partir de là, qu'est-ce qui se passe?
En fait, une fois que c'est terminé, c'est-à-dire qu'une fois qu'eux ont tout validé, ils te disent bon ben maintenant c'est à vous de mettre le projet en ligne quand vous voulez. Donc t'appuies sur un bouton et boum, ça apparaît, quoi.
Alors là, tiens, justement, encore, vivons le truc de l'intérieur. Vous vous êtes senti, enfin, c'était quoi? C'était l'angoisse totale? C'était le cœur qui battait à 100 à l'heure au moment d'appuyer sur le truc?
Alors oui et non, parce qu'en fait, il y a un système chez Ulule qui fait que tu restes dans ce qu'ils appellent le nid, si mes souvenirs sont bons, tant que tu n'as pas eu au moins 7 dons.
D'accord.
Donc l'idée, c'est qu'en fait, ils disent, faites passer le projet auprès de vos proches, qu'ils mettent un peu d'argent. Et dès que vous êtes arrivé à 7 dons, et en plus c'est 10 dons, non, peut-être, en une
chance. Je sais plus, mais
je crois que c'est 10 dons en 7 jours. Oui. Dès que tu atteins ces 10 dons, ça y est, tu es mis en avant sur le site. Mmh. Enfin, tu peux exister sur le site, on te retrouve dans le moteur de recherche du site, en fait.
D'accord.
Donc au début, t'as l'URL, et tu dois la partager sur les réseaux sociaux et tout ça, pour atteindre au moins les 10 dons en 7 jours. Si jamais tu atteins pas les 10 dons en 7 jours, tu quittes jamais le nid.
Ah oui, d'accord. Mais bon, ton projet est quand même toujours disponible.
Ton projet est toujours dispo, mais il quitte pas le nid, donc il sera pas mis en avant.
D'accord.
Voilà. Alors, je sais pas pourquoi, cette histoire des didons. Je pense que c'est un deuxième filtre après.
Oui, certainement, oui.
Bon, en fait, les didons, ils ont été atteints, je pense, moi, il m'a fallu à peu près 60 secondes. À partir du moment où j'ai posté le truc, parce qu'en fait, j'avais feinté. Pour préparer vraiment mon truc, j'avais déjà fait du teasing sur le Ulule qui arrivait quelques jours avant. Et en gros, j'avais dit, je savais que la validation allait pas tarder et j'ai dit faites attention, ce soir normalement ça sera ouvert, ou je sais plus quand c'était. Et j'ai dit surveiller les réseaux sociaux machin et tout ça, et quand j'ai eu le go, j'ai attendu le bon moment, j'ai appuyé sur go et là ça a été l'explosion.
Toi aussi t'as fait un peu de teasing, Will?
Je crois que j'avais fait un peu de teasing, j'avoue que je me souviens plus, mais moi j'étais quand même beaucoup moins rassuré, enfin je sais pas pour toi et Cédric, mais moi j'étais beaucoup moins rassuré.
Moi je flippais, franchement je flippais grave.
Voilà, moi j'avais quand même très très peur, parce que dans mon esprit, alors je sais pas si c'est le cas ou pas, mais dans mon esprit, si ça prenait pas dès le début, c'est-à-dire qu'il y avait peu de chances que ça prenne après, quoi. Et j'avais quand même très très peur qu'il y ait effectivement encore une fois, c'est vrai que j'ai pas expliqué tout à l'heure, mais je suis pas dans la même situation que pour Geeking qui a quand même une audience qui est nettement supérieure à Will & Co.
Disons que effectivement chez No Watch, Geeking était, je crois, tu me dis si je me trompe Cédric, mais c'était l'émission la plus suivie de No Watch.
Ouais, ouais, ouais.
suivi de près par certaines émissions audio comme
bien
le Rendez-vous-Tech.
De grande qualité. Mais c'est, alors, si tu veux pas te tromper, tu dis c'était la première émission vidéo chez No Watch. Là, tu te trompes pas.
Vois, ouais, donc effectivement,
genre, tu vois, le premier débat high-tech en France. Tu vois, c'est un peu comme les gens qui disent ça, quoi, tu vois.
Effectivement.
En fait, ils sont tout seuls sur ce créneau-là, donc forcément, ils sont les premiers. Bon, ben voilà, nous, c'est un peu pareil.
D'accord.
Tu peux dire d'ailleurs même le premier podcast vidéo avec des mecs dans un canapé présenté par un petit gros qui perd les cheveux. Chez No Watch,
je crois que t'en avais déjà parlé dans Upload voilà, il y a quelques semaines.
Non, on n'a pas du tout le même type d'audience, on n'a pas le même projet. Cédric vise, c'est un sujet tech, il parle de technologie, de sujets plutôt geek, donc il a des gens qui sont peut-être plus investis, en tout cas c'est ce que je pensais, qui étaient peut-être plus investis pour soutenir un projet qui était vraiment original, peut-être plus que le mien. Et c'est vrai
donc
que
toi c'était
moi j'ai eu très peur, c'était
Pougnette, quoi.
Ah, moi j'ai, mais j'ai eu du début à la fin, c'est-à-dire j'ai hésité longtemps avant de faire le Ulule, parce que comme je disais, j'ai eu à peu près l'idée au même moment que Cédric, mais j'ai attendu bien après avant de le lancer. J'ai eu beaucoup de mal au début à quantifier la somme qui nous était nécessaire, parce que contrairement à Cédric, nous c'était pas pour c'était pas tant des frais de fonctionnement que financer un projet pour développer l'émission. C'est-à-dire, moi, c'était pas tant dire voilà, il nous faut tant pour payer les serveurs, parce qu'on n'a pas des sommes énormes au niveau des serveurs.
Ouais, pour d'ailleurs, une émission audio,
ça marche pas en ce moment, mes serveurs. Bon, j'espère que au jour où vous écoutez cette émission, mon serveur remarche. Mais pour l'instant, ça fait 2 semaines qu'il ne marche pas. Donc voilà, on a des frais beaucoup moins importants. Mais moi, ce que je souhaitais proposer, c'était vraiment une plus-value qualitative dans l'émission, c'est-à-dire qu'on passe un cap.
C'est redéfinir ton émission. En
fait. C'est redéfinir tout et changer intégralement tout, et il nous fallait un petit peu de moyens pour pouvoir le faire, parce que à un moment ou à un autre, l'argent est nécessaire si on veut développer.
C'est l'ambition aussi, oui, on peut le dire.
Bien sûr, mais bon, voilà, c'est vrai que j'ai eu du mal à quantifier l'argent qui nous était
mais
nécessaire.
Alors justement,
j'ai eu très peur de pas l'atteindre du tout.
Quand vous lancez le truc, quand vous quittez le nid, tout ça, c'est comment vous regardez le truc toutes les heures en angoissant.
On a des mails qui arrivent automatiquement.
À chaque donation, il y a un mail.
Ouais. Ah oui. Il faut être tout à fait. Enfin, je sais pas pour toi, Cédric, mais moi, j'avoue que c'est grisant au début. C'est-à-dire que quand ça se passe non, au début, d'accord. Ouais. Quand ça se passe bien, c'est vrai qu'au début, quand ça commence et on voit des premiers dons qui arrivent, c'est surréaliste en plus que les gens... Alors moi, je remercierai, je sais que j'ai dit merci à peu près 1 million de fois, mais je continue à dire, parce que je remercierai jamais les gens d'avoir donné autant... Enfin, j'en reste bouche bée, quoi, parce que le don moyen était quand même assez important. C'est impressionnant, quoi. Et quand on reçoit les mails qui tombent et qui disent voilà, « telle personne vous a donné tant, telle personne vient de vous donner », c'est vrai que c'est assez. On commence à se dire on peut concrétiser un petit peu ce projet. Ça, c'est concret quoi. Déjà rien que là, ça devient concret. Donc c'est impressionnant.
Et donc quand vous recevez les mails, c'est le truc qui sonne toutes les 2 secondes et là vous.
Moi mon téléphone, la batterie s'est vidée en 2 heures peut-être parce qu'en fait il vibrait sans arrêt. Mais c'était sans arrêt quoi. Parce que mes mails étaient en push en plus.
Ouais.
Donc ça a été une catastrophe. Après j'ai fait une règle de mail sur Gmail hein, pour qu'il aille me les classer vite fait.
Bien sûr.
Mais parce que les premières 24 heures, ça a été une catastrophe pour ma boîte mail. mais oui, c'est grisant et puis tout de suite tu vas voir combien les gens ont donné et tout ça parce que tu te dis c'est surréaliste. Surtout que moi en plus il y a des mecs qui donnaient 250 € direct quoi. Enfin. Ou même 500 €, les deux qui ont donné 500 € l'ont donné dans les premières 24 heures. Ouf. Donc les deux places pour l'épisode spécial de Kicking qu'on prépare, ça a été donné tout de suite quoi. Et donc du coup ça fait super bizarre. Et puis quand tu vois, alors moi j'ai atteint mon premier palier en 18 heures.
D'accord.
J'imaginais pas que j'allais atteindre cette somme-là en 18 heures quoi. Enfin très franchement. Hein.
Et alors là dans l'équipe, parce que toi Will, bon t'es peut-être vous êtes moins nombreux derrière le projet. Cédric dans l'équipe, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est genre tout le monde qui s'appelle. Ah mais t'as vu on est à temps.
Ah oui. Là c'était en mode on était sur Skype et Hangout et c'était à chaque fois oh regarde 33%, oh regarde 50%, oh voilà et ça arrêtait pas. Et après, on a fait tomber tous les paliers un à un. Et franchement, il y a des moments où je me disais, mais bon, c'est bon, là, on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas. Et il a fallu qu'on rajoute même un dernier palier, alors qui n'a pas été atteint, parce que c'est vrai qu'on a, on a rajouté le palier un peu tard, et c'est, je pense, aussi ce qui a ralenti les dons. Mais franchement, on ne l'a pas atteint, genre, à 1000 euros près, quoi.
Ouais.
Et du coup, par le hasard des choses, on a réussi à économiser de l'argent ailleurs, et donc on considère que le dernier palier a été validé.
D'accord.
Et donc du coup voilà, on a fait une campagne pleine quoi. Alors il faut savoir juste un truc quand même, c'est que on est tombé nous en plus en même temps que la campagne de Noob qui a tout pété tous les records du
crowdfunding. Oui, c'est sûr que là on est sur des projets quand même, soyons réalistes, relativement modestes.
Bien sûr.
C'est pas des choses non plus invraisemblables, il y a des projets qui réunissent beaucoup plus d'argent. Mais alors justement, quand les choses commencent à se développer, comment se passent les relations avec Ulule? Est-ce qu'ils sont toujours aussi présents? Est-ce que
Ah oui, tout le temps.
Ils sont présents tout au long du.
Ils te félicitent même.
J'ai oublié de le dire, mais tu disais toi, Cédric, toi tu l'as fait pendant cette période, donc tu l'as fait donc c'était vers mai, je crois.
Ouais.
Moi, j'ai commencé pendant l'été, et d'ailleurs Ulule m'a conseillé d'augmenter la durée, parce qu'on peut choisir aussi la durée.
Ah oui, la durée du projet. Moi, j'ai fait un mois, et toi, t'as fait un
truc. Moi, j'ai fait 2 mois, ouais, parce que sur recommandation d'Ulule, et je pense qu'ils ont eu bien raison, parce qu'ils m'ont dit attention, c'est l'été, il y aura quand même moins de monde, et les gens seront moins seront en vacances hein, tout simplement, ils seront moins disponibles pour forcément donner de l'argent, et seront moins disponibles tout court devant leur écran. Donc allonger un petit peu la durée, et vaut mieux faire un peu plus long. Que trop court, donc bon, j'ai suivi leurs conseils, mais tout le long ils ont été là, oui, Ulule continue à vous suivre, à vous mettre en avant. D'ailleurs, en général, ils mettent en avant au milieu de l'opération, ils mettent en avant sur leur site. Alors ils demandent de leur fournir 2-3 images et de parler du projet. Mais voilà, ils sont vraiment là pour nous suivre, et nous on continue à recevoir les petits mails. Soit les commentaires d'encouragement, on en a eu plein tous les deux.
Ouais.
Soit des petits
retweets pour dire, sans arrêt en plus tes campagnes. Ouais. Dès que tu tweets, tu mets en copie sur ta campagne, tu mets en copie Ulule FR et les gars derrière te retweetent et tout, donc ça marche bien quoi.
D'accord. Ouais. Alors est-ce qu'il y a eu justement des choses auxquelles vous vous attendiez pas pendant ces campagnes, peut-être des mauvaises surprises justement, parce que là ça a l'air d'être un petit peu paradisiaque comme événement. Est-ce qu'il y a eu des mauvaises surprises ou des surprises tout court?
Ouais, pendant la campagne il y a eu des hauts et des bas. Le principal bas ça a été de trouver une structure juridique pour ensuite encaisser les dons.
Ça c'était pendant la campagne déjà?
Ah oui, parce qu'il faut anticiper, tu dois déjà fournir ton RIB, tous tes trucs, et du coup tu sais pas. Alors moi en plus j'ai eu la chance de pouvoir activer les dons PayPal, parce qu'il faut savoir que les dons PayPal sont pas activés par défaut, c'est uniquement, alors il y a une raison hein, Will, c'est uniquement quand tu atteins un certain palier ou quand le projet
mais tu peux le demander en fait. Alors je m'étais quand même renseigné, on peut le demander effectivement à n'importe quel moment.
On peut demander directement, d'accord.
On peut leur demander directement et ils nous l'activent si nécessaire. Le problème du don PayPal, il y a deux problèmes au don PayPal.
Ouais.
C'est que eux ils font en sorte que je trouve plus la partie qui vont se prendre Ulule, leur
commission.
Leur commission, merci. Depuis tout à l'heure.
Non, mais c'est un mot compliqué, oui. C'est vrai que
ça m'est pas venu. Oh bah, ça t'arrivera aussi. Alors, la commission que se prend Ulule, je crois qu'elle est plus faible effectivement sur les dons PayPal, parce que PayPal se prend déjà une commission sur les dons. Mais surtout, le problème de PayPal aussi, c'est que les dons qui sont faits, comme c'est l'argent est récupéré en fait à la fin de l'opération.
Eh oui.
Il arrive très régulièrement.
J'ai besoin de payer.
Voilà, qu'il y ait des impayés, c'est-à-dire que les comptes PayPal n'étaient pas, qu'il n'y avait pas d'argent dessus ou qui n'étaient pas liés à une carte de crédit, voilà. Et du coup, automatiquement, c'est annulé et donc le don n'est pas reçu. Ce qui pose pas des problèmes majeurs, mais ce qu'il faut prendre en compte quand même, parce que on peut se retrouver avec quelques euros, centaines d'euros parfois, ça peut arriver, on sait jamais, hein, qui disparaissent parce que malheureusement le don n'a pas été effectué. Donc c'est pour ça qu'ils l'activent pas de base.
Voilà, j'en ai une dizaine d'impayés, mais PayPal en fait a relancé les gens et j'en ai 8 sur les 10 qui ont mis à jour leurs coordonnées, qui ont payé, et 2 qui par contre ont pas. Bon, j'ai 60 euros, on a perdu.
Oui, non, mais c'est pas
catastrophe.
C'est pas une catastrophe, mais c'est vrai qu'il faut le prendre en compte, quoi.
Ouais. Et donc je me souviens, Cédric, que pendant la campagne, tu parlais, je sais plus si c'était publiquement ou
dis-moi.
avec moi, mais effectivement du fait que en fait l'histoire de l'association c'était compliqué et que tu l'avais pas anticipé.
Exactement.
Tu peux développer sur le.
Ben en fait j'ai regardé un peu les différentes formes juridiques qu'on pouvait utiliser. Donc moi étant même auto-entrepreneur, j'aurais pu hein, encaisser l'argent. Alors je commençais un peu à flipper en voyant les sommes. Hein. Et Coco, t'as un palier à pas dépasser quand même quand t'es auto-entrepreneur. Du coup, ça aurait pu le faire. Mais le problème, c'est que au-delà tu vois, de la commission PayPal, je me suis retrouvé avec 23% d'impôts. Mm. C'est pas négligeable hein, sur cette somme. Donc du coup, ça limite encore plus les investissements. Alors que quand tu es une association, tu as le privilège d'être une assoce à but non lucratif, et donc tu n'as pas d'impôts à payer sur les dons qui pullulent.
Bien sûr. Oui.
Donc du coup, c'était financièrement plus avantageux. Donc il a fallu qu'on se pose la question entre nous, est-ce qu'on monte une société même, tu vois ? Parce qu'il n'était même pas question que moi j'assume tout pour Geekink. J'ai déjà fait pendant des années, mais là il serait temps que ça change. et donc du coup, on a décidé de monter une asso, de toute façon on est assez nombreux pour ça. Donc on a monté notre petite asso, et alors là, ça a été la galère, mais je pense que pour toi aussi, Will, ça a été pareil. Pour ouvrir un compte en banque.
Ah, ça a été, moi, c'était le début de le début de la fin.
Mais pourquoi,
il nous a fallu quasiment un mois après la fin de la campagne pour pouvoir encaisser l'argent.
Donc l'argent reste sur les comptes de Ulule, voilà. Vous pouvez les encaisser au moment où vous avez une structure juridique.
Oui,
d'accord. Mais pourquoi, vous voulez dire qu'en fait c'est le fait de créer une association qui est compliqué ?
Alors non, ça c'est fait en ligne et c'est deux clics et, et c'est terminé quoi. Mm-hmm.
Non, mais
c'est ouvrir un compte en banque pour une asso.
Ah mais alors là c'était moi c'était une épopée quoi, c'est-à-dire c'est ça qui est un peu bizarre dans toute cette cette histoire avec Ulule avec ce financement participatif, c'est qu'il y a vraiment des hauts et des bas tout le temps. C'est-à-dire au début ça commence plutôt bien. Moi il y a eu quand même un gros ventre creux hein, pendant tout l'été où on n'a pas eu beaucoup de dons. Mmh. Au début on a eu beaucoup, au milieu on n'a rien eu et je voyais qu'on n'atteindrait même pas. On avait atteint notre premier palier mais j'en avais fixé un deuxième et je me disais bon de toute façon c'est mort, on n'arrivera jamais.
Ton premier était à 2000 euros.
À 2000 euros.
Le deuxième,
à 3500.
D'accord.
Parce que le premier, on l'a atteint en moins de 2 jours, en moins de 48 heures, on l'a atteint. Donc je me suis dit, bon, il me restait encore, je crois, 45 jours ou 50 jours ou, je sais plus.
On sait que sur le crowdfunding, généralement, les premières 24 à 48 heures sont, genre 50% de ce qu'on aura, quoi.
Voilà. Et il me restait du coup deux mois encore, derrière, donc je me suis dit, bon, on va essayer de faire un palier à 3500, on va voir ce qu'on peut faire pour cette somme-là. Mais bon, c'est vrai que ça a stagné un petit peu, donc j'étais un peu inquiet. L'essentiel, c'est qu'on est quand même au moins. Il faut pas oublier, ça, on l'a pas dit depuis le début. Hein. Mais à partir du
moment où
le premier palier, tu n'as rien et tout le monde est remboursé.
Bien sûr.
C'est pour ça aussi que moi j'avais fixé un palier quand même assez raisonnable au début pour être assuré un maximum
d'atteindre la thune. Hein.
Mais c'est très compliqué en fait parce qu'il faut bien quantifier le premier palier quoi parce que
bien sûr.
On peut se retrouver vraiment à être bloqué. Mais
pourquoi vous le faites pas à 100 euros le premier palier?
Parce que c'est pas réaliste et là ton projet tu vas te faire dégager en fait. Hein.
Oui,
voilà. Mais surtout aussi tu vas l'atteindre très vite et les gens ça va pas forcément leur donner envie de donner plus pour atteindre le palier parce que c'est aussi un peu un jeu hein, Ulule. Hein. C'est un peu ce financement c'est aidez-nous pour atteindre le but donc c'est bon.
Bien sûr.
C'est encore autre chose. Mais effectivement il y a des hauts débats mais le plus dur c'était comme tu disais Cédric le plus simple c'est de créer l'association on peut féliciter l'État français parce qu'on les critique assez pour quand ça ne marche pas. Mmh. Mais alors là pour tout
ça, je les félicite. Hein.
Ah ouais, ça se fait en ligne, mais vraiment en 2 jours c'est réglé. On envoie 3 papiers et on reçoit automatiquement tout ce qu'il faut. Un PDF on reçoit en plus maintenant avec le récépissé de la création de l'association. C'est très très bien fait.
Et tu même suivre les étapes en ligne et tout, mais en 24 heures c'est fait quoi.
Ah non, c'est vraiment très bien fichu.
D'accord.
Et par contre, donc effectivement après, alors moi je me suis aidé de Cédric hein, qui m'a beaucoup aidé pour parce que il avait essuyé les plâtres avant hein, donc je suis venu.
Mais je comprends pas en fait le problème pour ouvrir le compte en banque.
Voilà. Là, c'est là où ça devient compliqué. Alors Cédric, je sais pas comment ça s'est passé pour toi. Moi, je vais raconter parce que moi, ça a été
la. Moi, j'ai de la chance de faire qu'une seule banque. Hein.
Voilà, moi, c'était un peu plus compliqué.
Vas-y.
C'est-à-dire, je suis. Déjà, il faut se renseigner pour trouver une banque parce que bon, c'est des frais aussi qu'il faut prévoir, hein, mine de rien, parce que la gestion d'un compte en banque. Donc, il faut se renseigner sur la banque qui est la plus avantageuse pour les associations. Moi, je suis allé voir la Banque Postale. Qui est réputé pour avoir des tarifs intéressants et des produits intéressants pour les associations. Donc, je suis allé chez eux. À la fin, j'ai attendu juste avant la fin de notre opération Ulule. Je suis allé les voir. On a créé un dossier. Donc, tout a été fait comme dans une banque classique. Ils m'ont dit, voilà, bah, monsieur, c'est parfait. On vous envoie d'ici 2 semaines les informations de votre compte en banque, la carte bleue et le chéquier pour pouvoir, parce que nous, on avait encore beaucoup de matériel tout de même à acheter. Et donc, il fallait au moins que je puisse avoir déjà rien que le compte en banque pour pouvoir le RIB, pour pouvoir le fournir à Ulule, pour pouvoir récupérer l'argent.
Bien sûr.
Le temps que le versement se fasse et puis après pouvoir acheter. Donc déjà, je sentais que ça allait nous prendre quelques semaines. Et malheureusement, j'ai reçu au bout d'un peu plus de 2 semaines un courrier de la banque postale qui me refusait en fait la création du compte et qui ne motivait pas sa décision.
Ah et, d'accord, c'était juste...
Ah oui, ils ont le droit de te dire, bah non,
et en
désolé.
Fait, voilà, ils ont tout à fait le droit légalement de dire, bah non, en fait, on n'a pas envie de vous voir. Donc, il faut vous démerder, aller voir ailleurs ou créer un compte à la Banque de France. Et alors là, ça a été un peu, on a un peu pris donc 2 semaines dans les dents, ne pas bien pouvoir sûr. Même récupérer l'argent. Donc c'était, enfin, moi j'étais en catastrophé et j'ai eu surtout très peur d'être, j'en sais rien, interdit bancaire ou quoi que ce soit. Parce que comme on n'a pas, non mais c'est terrible parce que comme t'as pas de motivation, tu ne sais pas quelle est la raison. Qu'est-ce qui cloche dans ta demande et tu dis si c'est pour redemander à une banque et qu'ils me fassent le même coup au bout de 2 semaines, ça va pas faire nos affaires. Et en même temps,
mais tu les as appelés, t'as essayé d'en savoir plus ou
je suis allé les voir. Si tu veux, j'étais dans un état, je pense, de rage intense parce que là, j'étais tellement dépité de recevoir ce courrier. Je suis allé sur place revoir le conseiller qui j'avais fait le dossier, qui m'a regardé et qui m'a dit ah bah je suis désolé mais je peux rien faire. Absolument rien.
Bah oui, c'est non, mais ça. Tout ça, enfin, voilà. Aujourd'hui, ma bonne dame, les conseillers, ils se réfèrent tous aux centrales.
Ah, exactement. Ils m'ont dit, c'est central. Ils m'ont dit, aïe, 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 je suis désolé. Voilà. Démerdez-vous. Et donc, la solution qui était recommandée, qui est préconisée par la banque, c'est d'aller voir la banque centrale et de créer un compte, mais qui, dans ce cas-là, est c'est
la
beaucoup
Banque
plus
de France,
compliqué.
Tu veux dire.
Banque de France, pardon. Banque centrale, Banque de France. Où c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on n'a pas accès, je crois, à des cartes bleues. Il n'y a pas le droit au chéquier non plus. Enfin, et je me suis dit, bon, ça y est, ça va être très compliqué. Finalement, je suis allé voir une autre banque. Je ne donnerai pas de nom, mais voilà, je suis allé voir une autre banque. Finalement, ça s'est très bien passé. Il a fallu attendre encore 2 semaines supplémentaires quand même pour avoir tout ce qu'il nous fallait. Donc, ça nous a pris plus d'un mois avant de pouvoir lancer juste la récupération de l'argent du LUL. Donc, autant dire que ce n'était pas forcément prévu dans le timing au début.
Et Cédric, toi, donc t'es allé voir une banque et ça a été, c'était pas... Parce
non, que... ça a été catastrophique. Alors en plus, c'est ma banque, donc je suis à la caisse d'épargne, pour les citer. Et là, je suis tombé, alors il fallait passer par un conseiller entreprise, alors que c'est une asso, mais les entreprises et les assos, en fait, ont le même type de compte à la caisse d'épargne. Mmh. Et du coup, le même type de frais, hein, entre nous. Genre des frais de gestion à coût de 11 euros par mois ou par trimestre, enfin, un truc assez important quand même. Nous on a choisi cette banque, alors pas parce que c'était la moins chère, la preuve. D'ailleurs je crois que c'est la Société Générale hein, finalement la meilleure banque pour les assos, enfin, ou Crédit Agricole, je sais plus, l'un des deux qui a un compte dédié et des trucs spécifiques. D'ailleurs dès que tu crées ton asso, Will, t'as dû recevoir de la pub de cette banque.
Non, même pas. Moi, j'ai rien reçu. C'est des merdes en zizich. Hein. Alors moi,
je l'ai reçu après. Mais bon, nous, on avait déjà commencé la procédure d'ouverture du compte. Et en fait, on est tombé sur un gars, alors qui connaissait pas très bien son truc, je pense. Mais a priori, les assos sont, comment, sont des statuts juridiques un peu particuliers. C'est un peu complexe.
Ouais.
Et toutes les banques, enfin au moins tous les conseillers bancaires, sont pas au fait de ce qu'il faut faire.
Bien sûr.
Et donc, on pensait que le compte était ouvert. On a attendu 2 semaines. On a rappelé le mec, il nous dit non mais c'est normal, ça met du temps, ok. Et puis on s'est déplacé et là ils nous ont dit mais non mais rien n'a été fait. Bon ok très bien, alors allez, on va tout recommencer. Donc pareil, on a perdu 15 jours, plus après il y avait au moins 1 ou 2 semaines pareil d'ouverture de compte. Donc on a pu lancer la procédure de récupération de l'argent qu'au bout d'un mois. Par contre après ça va très vite, hein, c'est sous 24-48 heures, le virement est fait et puis l'argent est là et puis on n'en prend plus.
Bon, donc c'était vraiment l'ouverture du compte pour l'association qui était compliquée.
Ce qu'il faut pas oublier aussi, juste pour terminer là-dessus, c'est que si aussi ça a pris du temps, par exemple nous on a dû faire l'ouverture du compte début septembre, fin août, début septembre. C'est parce que certes la création de l'association ça se fait en 2 jours, par contre la publication au journal officiel
il faut attendre ça
de la création de l'association ça dure un mois et donc il faut attendre un mois et sans cette publication au journal officiel on ne peut pas aller d'ouvrir de compte en banque.
Bien sûr, oui, c'est logique.
Donc ça il faut le prévoir aussi et du coup c'est ce qui nous a aussi ralenti et qui nous a obligé. Nous on a beau y faire au plus tôt la création de l'association, il a fallu attendre plus d'un mois seulement pour pouvoir aller voir une banque. Donc
d'accord.
Après, okay. Dans une société, il n'y a pas tout ce parcours à faire. Hein.
Voilà.
Évidemment, évidemment. Là, on parle vraiment du petit crowdfunding. Hein, vous l'avez compris.
Oui.
Donc, ok. À ce moment-là, peut-être avant de passer à l'après, une fois que c'est créé et que vous pouvez commencer à bosser. Comment se passent les relations avec le public, justement, pendant la phase de financement?
Le meilleur du meilleur. alors, en fait, il y a deux types de trucs. Parce qu'il y a deux types de cas. Il y a les gens qui donnent et les gens qui donnent pas. C'est bête à dire, mais voilà.
Ouais.
Donc, les gens qui donnent, je sais pas si c'est ton cas à toi, Will, mais moi, je me sentais à chaque fois gêné, tu vois, presque.
Ouais, mais c'est un peu pareil. Hein.
C'est paradoxal, hein, parce qu'on leur en demande et ils en donnent et après, on se sent gêné, quoi. Il fallait pas demander, hein, c'était gêné. c'est vrai que ça fait un peu bizarre au départ. Et puis, il s'instaure une relation entre eux et nous où tu te sens redevable de communiquer avec eux le plus possible, pendant tout le long de la campagne et même après. Tu sais que l'une des clés du succès de ton projet, c'est que les gens aient confiance en toi et en ton projet, et ça passe forcément par une communication le plus souvent possible. Et donc, avec les gens qui donnaient, ça se passait très bien. Évidemment, en général, quand ils donnent de l'argent, c'est qu'ils sont motivés, donc ils vont pas trop.
Oui, forcément, a priori, c'est casser les pieds. Ils sont bienveillants vis-à-vis de toi, quoi.
Voilà. Dans ceux qui donnent pas, il y a deux cas aussi, pareil. Il y a ceux qui donnent pas parce que ils ont pas spécialement envie, mais le cœur y est. Et puis tu as une partie.
Il y en a qui s'en foutent, quoi.
Non, pas forcément.
Ils sont plus que s'en foutre. Hein.
Et après, t'as vraiment les gens qui sont vraiment négatifs.
Ouais, ouais.
Alors, j'ai eu de la chance parce que c'est pas venu à mes oreilles pendant la campagne Ulule, donc du coup, je n'ai vu que des choses positives. Et même des gens qui donnaient pas et qui disaient mais c'est génial ce que vous faites, machin et tout. Je peux pas donner, mais si j'avais pu, je vous aurais aidé, machin et tout ça, tu vois. Donc bon, c'était plutôt positif. Et puis les gens ont compris, même ceux qui n'ont pas donné ont compris que de toute façon, ils en profiteraient quand même. Parce que moi, dans mon cas,
bien sûr,
et comme dans celui de Will, quand on est dans l'amélioration du service ou de la qualité. Forcément tout le monde en profite. Du coup, même les gens qui veulent pas donner, même parce qu'ils aiment pas le principe de donner par crowdfunding ou autre, de toute façon, ils se retrouvent quand même gagnants dans l'histoire. Mais après, il y avait une petite frange. Alors moi, j'ai découvert que pour tout te dire, il y a quelques semaines, qu'en fait, il y avait tout un tas de gens qui disaient que c'était pas bien de demander de l'argent aux gens, il y a un aspect négatif dans tout ça.
Contrairement à une entreprise, à un projet commercial, ou même à certains projets associatifs, nous, quand on fait ce genre de choses, et moi je l'ai connu dans une certaine mesure avec les dons que j'avais à l'époque mes premières émissions, c'est des produits qui existent de toute façon, que les gens.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On donne ou pas.
Voilà.
Donc, comme tu le disais, Cédric, c'est positif pour ceux qui donnent pas parce que de toute façon, ils l'ont et puis ils ont l'amélioration de la qualité quand ça concerne ce genre de choses. Mais donc, il y a des gens qui se disent ce que vous faites, vous le feriez de toute façon. Donc, pourquoi vous demandez de l'argent, c'est ça?
C'est ça, il y a ça.
Oui, je pense qu'il y a eu ça.
Et puis, il y a aussi le... Ouais, mais en fait... alors ça, c'est plus pour le milieu du podcast qui te dit, oui, mais nous, on fait du podcast et on le fait sans argent. Donc, je vois pas pourquoi ils auraient besoin d'argent, quoi. Tu vois, demander de l'argent comme ça. Après, on sait pas ce qui va en être vraiment fait. C'est des gens qui ont pas confiance en nous. Donc,
de toute façon, ça attise, la jalousie. Ça, c'est ça. Je pense qu'on s'en doutait quand même. Ça attise la jalousie. Après, on l'a fait le plus sérieusement du monde. Enfin, depuis tout à l'heure, je pense que ça démontre un petit peu. Les pages qu'on avait fait sur Ulule, on avait quand même expliqué clairement ce qu'on allait faire. Et moi, je peux vous dire, au jour où on enregistre, on n'a pas encore repris l'émission, on la reprend très très bientôt. Mais au jour où vous l'écouterez, vous aurez vu qu'on a respecté tous les points dont on avait parlé sur la page Ulule. On a géré ça honnêtement au centime près. Enfin, j'ai essayé de faire ça le plus sérieusement possible. On l'a fait. Et ben, si certains ne sont pas contents, ils avaient qu'à le faire au lieu de râler. Mais bon, après.
Mais moi j'irais presque dans. Enfin, j'aurais une question qui irait dans l'autre sens. Est-ce qu'il vous est venu à l'esprit à un moment d'être carrément encore plus ambitieux et d'essayer de financer suffisamment les émissions pour en vivre pendant une certaine période?
Non, moi non.
Ouais, moi non plus. En fait, non, je suis parti du...
serait pas faisable ou parce que non, vous n'avez pas envie?
Pour deux choses. C'est que là, du coup, on passe dans un... Le don est plus utilisé de la même façon. Et on arrive dans une phase où... Si tu veux, le fait que j'y travaille à 100% dessus, je crois pas... Enfin, si, les choses seraient certainement mieux pour Geeking. On aurait le temps de répondre plus souvent aux mails et tout ce que tu veux. Mais ça changerait pas l'émission plus que ça, tu vois. Et me dire que je vis, entre guillemets, au crochet de gens qui ont donné de l'argent, ça me dérange, en fait.
Mais surtout que c'est pas une solution très pérenne, enfin, je veux dire.
C'est ça, c'est pas très pérenne, et se dire, ok, je suis financé pendant un an, imaginons, hein. On lève, je sais pas, moi, 30 000 euros, et ça me permet de vivre pendant un an. Le problème, c'est que déjà, moi, là, pour moi, je dis pas que c'est du détournement, mais tu vois, typiquement, une association ne paye pas d'impôts et n'a pas de soucis à partir du moment où le président, enfin les membres du bureau, ne retire pas une contrepartie financière. Ouais. Aucune.
Mais moi je veux dire au-delà des questions purement administratives, dans la théorie, si vous pouviez vous faire financer suffisamment pour en vivre par les auditeurs, est-ce que c'est une solution que vous envisageriez ou pas?
Non, parce qu'en fait ça veut dire que chaque année tu dois recommencer.
Oui.
Oui, d'accord.
Et chaque année, t'es de moins en moins sûr que ça fonctionne. Et c'est moi ça me pose un vrai problème. Et puis imagine que j'ai plus envie de faire l'émission. Les gens donnent de l'argent et me payent pour ça.
Tu signes pour un an à chaque fois, a priori, hein. Donc,
ouais, non, d'accord. Mais les gens, ouais, mais imagine demain, je sais pas, je suis malade pendant un mois, je peux pas sortir d'émission ou je sais pas, ou pour une quelconque raison, je peux pas sortir d'émission. Si tu veux, là, je me sentirais encore plus redevable auprès des gens.
Bah là, tu te sens pas redevable aujourd'hui.
En fait, ils ont payé. Alors attention, il y a une nuance, c'est que moi, ils ont payé pour le moyen de diffusion, mais pas spécialement pour qu'on sorte tous les 15 jours. Tu vois, ils ont pas payé pour ça. Que les choses soient claires. Ils ont payé pour les moyens techniques.
Exactement. Nous, pour faire une nouvelle saison, on a pris soin de ne pas promettre ni de date de retour. Je pense que
vous avez bien fait là.
Je pense que sur ce coup, on a plutôt bien joué. Non mais
ça va. Le 18 novembre, c'est bien pour démarrer.
C'est pas mal. C'est pas mal. C'est une rentrée avec un tout petit peu de décalage.
Mais t'aurais dû démarrer le 1er janvier.
Non mais oui.
Le 1er janvier au 1er janvier.
Non mais je suis pareil. Je suis dans le même cas que Cédric. Hein, on a fait quand même attention de ne pas non plus promettre ni moins de quantité d'émissions. On n'est pas là pour, enfin encore une fois hein, on n'est pas là pour arnaquer, faire quoi que ce soit mais on va faire au maximum, mais je pouvais pas assurer. Je suis content parce que finalement il y a des problèmes qui ont fait qu'on n'a pas pu faire mieux malheureusement, donc voilà, je suis pareil que Cédric.
Après moi je me suis mis une pression supplémentaire puisque j'ai accepté d'être diffusé à la télévision, et là pour le coup j'ai un vrai contrat qui m'engage à délivrer 26 épisodes jusqu'au mois de juin, ce qui correspond à un épisode tous les 15 jours. Donc je me suis mis moi-même la contrainte, tu vois. D'accord. Comme ça les gens sont sûrs d'avoir leurs épisodes tous les 15 jours.
D'accord.
Et tu vois, pareil là, dans le cadre de ce contrat télé, on m'a proposé de l'argent, et par honnêteté vis-à-vis des gens qui avaient payé pour le LUL, parce que évidemment quand tu acceptes de l'argent d'une télé, tu acceptes aussi des contreparties. C'est-à-dire que par exemple au début, ce qui était proposé, c'est d'avoir une exclusivité d'une semaine. Or, pour moi, c'était intenable d'avoir une chaîne de télé qui a l'exclus de diffusion pendant une semaine, alors que des gens ont payé pour avoir un meilleur moyen de diffusion et avoir l'émission en temps et en heure, tu vois. Donc, j'ai dû refuser, par exemple, de l'argent. Enfin, j'ai accepté le minimum légal qui était 500 euros pour les droits de l'émission, tu vois. Donc, 500 euros pour une année pour une émission de télé, autant dire que c'est rien du tout.
Bien sûr.
Mais c'est le minimum légal. C'est-à-dire que sans ça, le contrat peut pas se faire. Donc, du coup, on a dit, bon, ben, ok, on les prend, mais. D'accord. Donc, on les a mis dans l'assaut, de toute façon, et on n'en retirera pas de bénéfices, nous, personnels, tu vois. C'est vraiment, chaque centime, comme dit Will, est de toute façon réinvesti dans le matériel.
Je vous admire quand même un petit peu sur ce coup, parce que, bon, vous êtes, enfin, les choses sont extrêmement cadrées dans la manière dont vous envisagez tout ça. Moi, la manière dont j'envisageais les pourboires, ce que j'appelais les pourboires à l'époque de où j'acceptais les dons. D'ailleurs, je voudrais les réactiver, mais je me disais. Bah écoute, c'est des pourboires, ça marche comme un pourboire. Bon, oui, ça sert à payer les serveurs, mais moi j'ai des émissions audio, les serveurs coûtent pas très cher.
Oui, t'en fais ce que tu veux de l'argent.
Et ensuite, voilà, j'en fais ce que je veux. C'est vrai que là, vous avez demandé de l'argent pour des choses spécifiques, mais vous auriez pu aussi dire, bon bah on veut de l'argent pour faire vivre l'émission, pour pouvoir...
Mais justement, c'est là que ça marcherait pas. C'est-à-dire que pour moi, le fait que le projet soit bien cadré, que les gens aient confiance.
Ça instaure une certaine confiance entre les... Exactement. Bien sûr.
Parce qu'en fait, ça marche. Le crowdfunding, faut dire ce qui est, ça marche sur la confiance. C'est-à-dire que si les gens n'ont pas confiance en ton projet, ils donneront pas. Si tu donnes l'impression que tu vas partir avec la caisse, autant te dire qu'ils donneront pas d'argent. Bon, certains. Enfin, après, ça dépend. Si t'arrives et sur ta page, tu dis voilà, j'ai envie d'acheter un nouveau MacBook, comme certains blogueurs font. Hein. Salut Locan. Je vais acheter un nouveau MacBook, un nouveau truc, machin, parce que comme ça va me permettre d'écrire mes articles encore plus vite sur l'internet mondial. Si des gens sont prêts à donner, bon ben grand bien leur fasse, c'est tant mieux pour lui, tu vois.
Oui. Non, mais les choses limite, sont annoncées. À la limite, moi je suis pas Locan de très près, mais il dit bon ben j'ai envie de m'acheter un nouveau MacBook.
Non, mais
si vous voulez me le payer, allez-y.
Ah bien sûr.
Mais
c'est pour ça que justement c'est exactement ce que je dis. Je suis pas en train de dire ça pour le tacler.
C'est une question de confiance, quoi.
C'est que à partir du moment où les choses sont clairement annoncées, et dans son cas. Il a clairement annoncé, je veux un nouveau MacBook pour écrire des articles sur le site. Il en fera certainement autre chose, hein, que les choses soient claires.
Bah oui, évidemment.
Mais que les gens savent pourquoi l'argent va être utilisé, ben ça marche. Et la preuve, c'est que dans son cas, ça marche. Les gens sont prêts à lui payer un nouveau MacBook. À partir du moment où le projet est honnête et où t'es honnête avec les gens qui donnent, eh ben ça fonctionne. Et nous, dans notre cas, on a décidé d'être le plus transparent possible. Et d'ailleurs, tous les trimestres, les gens qui ont donné recevront. Enfin là, c'est à partir. Ben, d'ailleurs, peut-être que là, ils l'auront déjà reçu. Mais on va leur fournir en fait un décompte de ce que l'on a acheté et où est-ce qu'on en est, ce qui reste comme argent. Comme ça, ils vont vite voir ce qui a été fait, pas fait, et où est-ce qu'on en est.
D'accord.
Quoi.
Ok. Donc... Bon, là, le financement est terminé. Vous avez, tiens, peut-être le moment où effectivement les dernières secondes s'écoulent sur le truc. Comment vous l'avez vécu, vous?
Ah ben je vais peut-être en parler, parce que je sais pas comment ça s'est passé pour toi Cédric, mais moi on avait du coup un deuxième palier à 3 500 €. On devait être à 3 200 ou quelque chose dans ce genre, et il devait rester 3-4 heures grand max. Je me suis dit bon tant pis, le 3 500 €, j'étais en train de revoir mes calculs pour le budget, en train de me dire bon allez, ça on va peut-être pas le prendre, ça on va essayer de voir autrement. Et j'ai justement, quand je te disais que l'équipe d'Ulule elle est toujours là, quelqu'un de Ulule qui est venu me contacter, donc le mec qui gérait mon projet, qui me dit oh ben c'est pas mal, vraiment bon, au final ça a plutôt bien fonctionné, votre financement c'est chouette. Il a dit mais chiche, on tente les 4000. Je lui dis on est à 3 200, on vise 3 500, il nous reste 3 heures, bon, j'y crois un peu moyen. Il me dit non mais moi je vous dis, on a l'habitude de voir un sursaut de dons dans les dernières minutes. Je dis bon ben au final il a
pourquoi
peut-être pas tort.
Tu vas pas dire non quoi.
Honnêtement, je me suis dit qu'il connaît mieux le sujet que moi, parce que c'est vrai qu'ils ont plus l'habitude d'en faire. Donc je me suis dit, allez, on va le croire. Mais j'y suis allé, je me suis dit, c'est à double tranchant, parce que si on n'atteint pas, ça fait vraiment ridicule. Ça fait vraiment, allez les mecs, on y va, il nous reste 3 heures, on va faire 4000. Et puis au final, on reste à 3250. Donc je me suis dit, ce serait un peu terrible. Ou alors, ça marche et tant mieux. Et effectivement, ce que j'ai fait, alors là, c'est en l'espace de 50 minutes, les 50 dernières minutes, on a gagné 1000 euros.
Mais ça s'est passé comment en fait? C'était parce que toi t'en as reparlé sur les réseaux sociaux.
Je suis allé sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est moi. Ulule n'a rien fait. Alors bon, évidemment, on n'est pas stupide. On sait bien aussi que ça leur fait leurs affaires, puisqu'ils se prennent toujours une commission tout de même sur les résultats. Donc bien sûr qu'ils nous encouragent à le faire. Et c'est pas eux qui mouillent la chemise dans l'histoire. Mais voilà, moi c'est juste moi qui suis allé. Eux ils n'ont rien fait. Hein. C'est juste moi qui ai tenté le coup. Et au final ça s'est très bien passé, puisqu'on a du coup atteint 4 200 et quelques euros.
4 120.
4 120. Ah bah voilà. 4000 pas de...
D'accord. Ouais. Et donc, quand les dernières secondes se sont écoulées, c'était quoi? C'était le champagne, danser,
parce que je savais tout ce qui m'attendait encore derrière, tout ce qu'on a dit avant qui n'était pas très drôle à faire.
Ah oui,
je savais qu'il fallait, là, bah, du coup, que ça devenait concret et que maintenant, on avait des comptes à rendre, surtout.
Ah, là, c'est là où tu commences à retrousser les manches, quoi.
Voilà, maintenant, tu dis, bon, bah, maintenant, il va falloir
c'est
préparer.
C'est vrai, mais moi, j'aurais pensé que sur le moment, c'est genre, effectivement, les pom-pom girls, la musique.
Non, bah oui, déjà, t'écris un message pour dire merci aux gens et tout. Je pense que c'est dans le même cas que moi, Will, mais moi j'étais sur un nuage. C'est cette sensation de genre on vient de t'annoncer que t'as eu ton bac, quoi, tu vois.
Ouais. Ah ouais, d'accord.
C'est du même niveau, hein, très franchement.
Non, mais
c'est,
moi, j'étais
ou que t'as accompli un truc. Ou,
voilà, on a accompli quelque chose. J'étais tellement soulagé de pouvoir faire ce qu'on avait prévu de faire. Je savais que là on avait les moyens de nos ambitions.
Là, t'as ton avenir qui.
Voilà,
et j'ai un radio d'un coup, tu vois, pour ton projet. Donc.
J'étais serein, je me disais, bon, ça, c'est une bonne chose de fait. Ça a été compliqué, parce qu'il faut quand même pendant tout le long en parler, essayer de motiver les troupes. Et voilà, je me suis dit, on a quand même atteint le but, ça a fonctionné, donc on est content. Mais c'est vrai que, moi, tout de suite, enfin, à partir du moment où c'est bon, on avait l'argent, où c'était terminé, j'étais content, mais en même temps, je me disais, bon, ben, j'ai des contreparties à préparer, j'ai l'émission à fabriquer, parce que nous, on est reparti de zéro, on a tout changé.
Ouais.
Je me suis dit, bon, on a du boulot sur la planche, donc c'est cool, mais maintenant, on a des comptes à rendre, parce que l'argent, on l'a. Donc, mais c'était quand même très, très, enfin, forcément. Ouais, on a eu un don en plus. Je remercie encore une personne qui va participer à l'émission, qui a fait un don pareil de plus de 250 euros, et qui l'a fait dans les toutes dernières minutes.
Ah oui. Donc, c'est celui qui vous a amené en fait.
Je crois qu'il avait fait. C'est lui qui nous a amené à dépasser, je crois, les 4000. Et il voulait lui attendre le dernier moment justement pour. Il nous a dit j'ai attendu, je suis un fan de la première heure, j'ai écouté toutes vos émissions et j'ai attendu le dernier moment. Je dis, ah bah oui.
D'accord.
Mais est-ce que t'as eu cette sensation aussi, Will,
oui.
que quand tu arrivais par exemple, moi je l'ai vécu 13 fois, mais à chaque fois que t'as entre 300 même pas attends
entre 300 000 et 400 000 euros
entre 0 et 500 euros. Les dons étaient assez mous, et dès qu'on arrivait à 500, ça relançait la machine, genre, pour arriver au millier au-dessus, tu vois. Ben, moi, je l'ai vécu 13 fois, et à chaque fois, dès qu'on dépassait, en gros, la moitié du millier, donc 500, ben là, ça avait tendance à s'accélérer, et de plus en plus. Tu sais, genre quand t'arrivais à 900, bon, ben, les 100 de plus arrivaient assez vite.
Je pense que Ulule doit mieux savoir ça que nous, mais c'est vrai qu'il y a des comportements humains qu'on n'arrive pas forcément à
quantifier. Genre, on va arrondir, tu vois.
Ah oui, ça, j'en ai eu plein. Alors, on va arrondir. Ouais. On en a eu plein et qui m'envoyaient des petits messages en disant, j'aime pas les chiffres par rond, alors j'ai arrondi.
vraiment. Ouais, exactement. Et moi, faut te dire, j'ai un mec qui a donné 323 euros.
Oui, pareil. Hein.
Non, mais pareil, pour arrondir, tu sais, genre, pour arriver à 10 000,
c'est
vrai, il a mis 323 euros. Et en plus, grand merci à lui d'ailleurs, je crois qu'il a même demandé à n'avoir aucune contrepartie. Donc, tu vois, il y en a plein hein, d'ailleurs.
Ont demandé à n'avoir aucune contrepartie.
Ouais, il y en a.
Il y en a beaucoup.
C'est surprenant. Pourquoi est-ce qu'il parce que il y a juste, enfin, dans les paliers que vous avez, dans les récompenses que vous aviez installées, c'était des merci, le nom générique. C'était pas des trucs.
Oui, j'en ai un paquet de noms génériques.
Plus que moi.
Mais vous avez parlé avec eux, vous leur avez demandé pourquoi ils voulaient pas avoir de contrepartie.
J'avoue que non. Même s'ils reçoivent quand même la newsletter, j'avoue que non. Une des explications, je pense, c'est que ce système de financement, c'est un peu ce que j'écrivais dans un de tes commentaires sous le rendez-vous tech que tu avais fait. Vous aviez parlé de ça avec, il y avait Jérôme.
Avec Jérôme,
Il y avait que Jérôme. Oui, il y avait que
non,
Jérôme.
Il y avait Jérôme, mais je sais plus qui était l'autre, mais oui,
je sais plus. Et en fait, je pense que c'est le crowdfunding, ça va au-delà de juste. La contrepartie, c'est une façon de voir, enfin c'est une façon d'aider les projets que l'on aime
bien sûr.
Qui peut être complètement désintéressé parfois. Et je pense que ça, tu vois, c'est typiquement un truc que tu verrais dans le crowdfunding ou dans les dons classiques que tu ne verrais pas dans un financement classique. Prise de capital, investissement.
Bien sûr. Non, mais ce que je me dis, c'est que justement, d'autant plus les gens qui financent ce genre de projet, qui le font par amour finalement du projet qui est présenté, ils seraient d'autant plus intéressés par le fait d'avoir soit un petit sticker, soit tu vois le nom en générique pour en quelque sorte faire partie du projet ou oui. avoir une donc c'est ouais, juste surprenant. Tu vois qu'il y ait certaines personnes qui disent non, bah je veux pas de contrepartie. Bon, évidemment, il doit y en avoir, mais là vous avez l'air de dire qu'il y en a une quantité un peu surprenante quoi. Donc c'est
ouais,
pour
c'est
ça
assez
que...
surprenant. Faudrait que je regarde en chiffres.
Ouais,
mais
j'en ai quelques-uns. Alors après, moi, j'ai pas écouté ce qu'on m'a dit parce que j'ai quand même envoyé des contreparties à tout le monde.
Ah
et
oui.
Je comprends leur choix, mais ça me mettait mal à l'aise. J'avais quand même l'impression oui. Qu'ils avaient quand même donné d'argent pour quelque chose en plus de l'émission, parce que bon, l'essentiel, hein, c'est quand même, on est d'accord, c'est pas les stickers, c'est quand même nous les
choses
qu'on va
oui, bien sûr.
Qu'on va produire, mais je me disais bon, quelqu'un qui a donné, tu les as toujours pas reçus ?
Toujours pas.
Écoute, ils ont disparu. Mais non, mais vraiment, je sais pas, je les ai envoyés en plus. Bon, c'est pas c'est grave.
Je me suis fait avoir. Hein. Je crois que j'avais donné 10€ pour WAC. Et puis c'est le nom générique, mais je l'écoute en audio moi. Du coup, je vais pas pouvoir passer le nom générique. Ah d'accord, tu les lis tous. Ok, alors ça va.
Eh ouais. Avec les applaudissements derrière d'ailleurs.
Pour
Patrick,
chacun.
Béja, ouais.
Non mais
bon, donc,
moi ça m'était mal à l'aise, donc j'ai quand même fourni des contreparties à tout le monde.
D'accord.
Qu'ils le voulaient, qu'ils le veulent ou non, ils avaient leur contrepartie.
Enfin, moi bon, je le voulais donc... mais je l'ai pas eu.
Donc dernière partie peut-être une fois que le financement est derrière et puis que on commence à s'y mettre. Peut-être, parce que bon, Cédric, tu te moques un petit peu de William et du décalage qu'il y a entre la fin du financement et le début de l'émission. C'est vrai que ça a pris un petit peu de retard, mais vous étiez pas hyper rapide non plus. Hein, le lancement de l'émission a pris un petit peu de retard.
Alors, on a toujours été présents tout l'été. Hein.
C'est vrai.
On s'est pas jamais arrêté en fait.
Ouais, ils ont jamais, eux, ils ont fait des émissions tout le temps. Mais vraiment.
Mais pourquoi j'ai eu l'impression que vous étiez arrêté pendant un moment?
Non, en fait, on avait juste levé le pied, donc je mens. Au lieu de sortir tous les 15 jours, on sortait tous les 3 semaines, 4 semaines.
D'accord.
On a fait 3 émissions, au lieu d'en
faire. Il y a peut-être eu la période des 4 semaines où je me suis dit, mais là, c'était la pause, le temps de préparer.
T'es peut-être tombé. En fait, l'épisode avait été tourné, mais il est sorti un peu plus tard au montage parce qu'on attendait le nouveau générique.
D'accord.
Donc c'est peut-être ça.
Oui, enfin bon. Donc bref, effectivement, une fois le truc financé, et puis que comme vous disiez, on se retrousse les manches.
Ouais.
Du coup, ça se passe comment à ce moment-là? D'une part, pour le boulot, pour peut-être les histoires d'associations et tout ça, et puis aussi le rapport avec les soutiens. Comment il évolue au cours des mois qui suivent la fin du financement?
Ben moi, je vais peut-être commencer à en parler, Cédric, parce que du coup, c'est nous qui avons eu.
Toujours toi qui commence. T'as pris la parole au début, mais non, c'est toujours toi.
Ouais, c'est vrai. Oui, mais on a une situation. Vous avez fait des émissions tout le temps, donc c'est vrai que c'était un petit peu différent. Nous, ça fait depuis au jour où on enregistre encore, ça doit faire depuis 3 mois et demi, 4 mois qu'on n'a pas fait d'émission.
Commencent pas à gueuler là?
Alors si, mais moi c'est très compliqué à gérer parce que. Justement, j'en profite pour en parler. Alors, j'en entendrai plus tard, mais j'en profite pour en parler aujourd'hui. C'est vrai que on a souhaité faire beaucoup beaucoup de choses pour mon émission avec l'argent qu'on nous a donné. C'est des choses qu'on a réussi ou qu'on va réussir à faire, mais ça nous a demandé déjà. Et on a perdu, ce que je disais avant, rien qu'un mois pour récupérer l'argent, le temps de faire les achats. Nous, dans notre situation, on a changé de local, on a changé pour dire, on est reparti de zéro. C'est-à-dire, on a changé absolument tout ce qu'on faisait, le matériel, le local, l'équipe, le contenu d'émission.
Ça se trouve, ça va être pourri du coup.
Ah, ça tu verras.
On sait pas.
Ça tu verras. Mais si ça se trouve, après ça c'est encore une fois, on l'a dit clairement sur notre page Ulule. Donc bon, on a dit ce qu'on allait changer et on change tout. Donc c'est vrai que ça nous a demandé.
C'est pas compliqué. Ce qu'on va changer, tout.
C'est tout. Okay. Bah, c'est un peu ça. Et c'est vrai que c'était, ça nous a pris beaucoup plus de temps que prévu. On a eu des soucis. Je ne reviendrai pas sur tous les soucis qu'on a pu avoir, mais il n'y a pas eu que la banque. Il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte.
Mm-hmm. Et donc
les gens là maintenant, au début c'était plutôt cordial, plutôt sympa. Là je t'avouerai que depuis quelques jours ça a commencé à être un peu plus, on arrivait fin octobre, ça commençait à être un peu moins rigolo. Et moi ça m'angoissait terriblement parce que je fais tout mon possible pour le faire le plus rapidement parce que j'ai envie de recommencer cette émission, hein, je suis le premier concerné. On peut pas faire plus vite et c'est vrai que c'est très difficile de devoir justifier. En plus, on essaye de garder un petit peu de surprise quand même. On veut pas dire tout ce qu'on va faire et tous les problèmes qu'on rencontre.
Sûr.
Et ça ne regarde à la limite, enfin c'est compliqué, mais tous nos soucis ne regardent pas nécessairement tout le monde. On essaie d'être le plus transparent possible, mais ça sert à rien de déverser tous les problèmes qu'on a. On essaie au contraire de dire que voilà, on va avoir une chouette émission, qu'on va faire quelque chose de bien, ce qui est le cas.
Ouais.
Et de passer un petit peu les problèmes qu'on a rencontrés. Donc là, ça gronde un petit peu. On a annoncé une date de retour. Ça a apaisé les esprits. Voilà.
D'accord.
On peut maintenant dire quand est-ce qu'on reviendra. Donc on atteint le bout du tunnel. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est difficile à gérer de devoir se justifier, devoir dire pourquoi ça prend du temps, devoir dire ce qu'on fait exactement. Tout le monde ne prend pas, et c'est normal, mais tout le monde ne prend pas forcément la mesure de l'investissement et du temps nécessaire. Rien que pour les contreparties. Enfin, ça peut paraître bête. Mais là, voilà, nous, on a proposé des stickers. Alors, on va se dire, bah, stickers, bon, il abuse, il imprime ses 3 stickers et il nous les envoie. non, mais c'est vrai. Mais en fait, c'est tellement plus compliqué que ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut fabriquer des stickers, il faut trouver un fabricant sticker qui propose au tarif, parce que ça peut coûter très cher des stickers, ça, on ne le sait pas nécessairement, pour faire des stickers de qualité tout de même. Faut après prévoir tous les envois, donc toutes les personnes qui sont concernées, donc faire des listes précises, récupérer les adresses, parce que certaines personnes parfois oublient de mettre leur adresse, donc récupérer les adresses. Il faut aller ensuite préparer les X centaines d'enveloppes, les remplir, mettre les petits mots, les timbrer, les envoyer. Enfin, ça demande finalement beaucoup d'investissement et beaucoup de temps rien que pour envoyer des stickers.
Vrai que certains auditeurs se diront peut-être, oui, bon, ok, t'imprimes les stickers, tu fais les enveloppes, machin. Mais ce que tu veux dire, c'est que c'est l'une des très nombreuses choses qu'il faut faire.
C'est exactement ça, c'est mis bout à bout.
Mais c'est des choses que vous aviez anticipées ou c'est des choses auxquelles on pense pas vraiment quand on se lance dans le truc et on se dit bon.
Non, elles sont anticipées, mais bon, faut les faire quoi.
Exactement.
Nous, on a pris le parti de et on avait cet avantage. Will, lui, tu vois, il était obligé de tout faire d'un coup.
Oui.
Enfin, les stickers, pas forcément, mais de tout faire d'un coup pour son émission, forcément. Nous, dans notre cas. On peut y aller par palier et graduellement. C'est-à-dire que notre priorité, ça a été de diffuser nos émissions dans des conditions correctes. Ça devenait vraiment chaotique fin juin, début juillet. Donc ça a été notre priorité de chez priorité. On a bossé dessus jour et nuit. Enfin, jour et nuit, j'exagère parce que jour, je travaille quand même. Si mon patron m'écoute, je te salue. Donc en plus de ça, oui, moi, j'avais retrouvé un travail depuis. Donc ça a été compliqué à gérer en plus d'avoir la naissance de ma fille fin mai. Donc ça a été disons que ton emploi du temps est difficile à accorder avec toute la masse de travail que ça représente. Donc nous on a eu l'avantage de pouvoir avancer petit à petit. On a démarré quand même toutes les machines en même temps, on s'est amusé un peu avec ça, là on travaille sur les applications.
C'est vrai que entre
les stickers
parenthèses...
vont arriver, mais on aimerait bien les faire arriver, tu vois, genre pour la période de Noël, on y aura peut-être une petite surprise avec d'ailleurs. Donc voilà. Enfin là, les jeux de gens l'auront reçu sans doute, mais voilà.
Mais c'est vrai que bon, on l'a déjà dit dans l'émission, on parle de petits Kickstarter qui sont des projets de passionnés. Donc ça veut aussi dire que vous avez tous les deux des vies. À côté évidemment, mais aussi des vies professionnelles et que c'est des choses que vous faites dans votre
toujours.
Temps libre. Donc
exactement. C'est de la passion, sauf que quand tu fais ça, bah, t'as l'impression de vraiment passer un cap dans ta passion. Alors c'est vrai et pas vrai en même temps, c'est-à-dire que avant ça, il y avait quand même No Watch qui imposait aussi des contraintes, hein, mine de rien, puisqu'on a essayé d'en vivre et tout ça. Mais là, t'es plus dans le même état d'esprit, tu vois. Tu bosses pour toi et pour ton truc, pour ta passion. Et du coup, ça, en fait, il faut faire attention à une chose, c'est que non seulement tu te sens redevable vis-à-vis de tout le monde, mais le truc, c'est qu'il faut que les gens réalisent que, t'as une vie à faire tourner à côté aussi. Et que même si eux, tu vois, quand ils sont sur Internet, moi, j'essaie de répondre le plus possible, mais j'y arrive pas tout le temps. Ouais. Mais souvent quand ils sont sur internet, ils se disent bon mais tiens ouais j'ai donné de l'argent à Geeking, ben je lui envoie un mail de suite, il faut qu'il me réponde maintenant quoi tu vois, puisqu'après tout j'ai donné de l'argent, donc normalement il doit faire le SAV H24 puisque j'ai payé. Sauf qu'en fait c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Alors j'avoue c'est pas une situation que j'ai beaucoup rencontrée, j'ai pas trop de gens qui m'ont mis la pression plus que ça d'ailleurs, parce que je pense qu'ils comprennent que c'est compliqué, et surtout qu'en plus l'émission on continue à la faire et à la faire tourner. Et elle occupe déjà une grosse partie du temps. Et moi, la priorité que j'ai aujourd'hui, c'est de me concentrer pour que l'émission sorte dans les conditions que j'ai promises.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, les stickers, ça n'a pas été la priorité, tu vois, pour nous dans un premier temps, parce que, bah, si, je le dis franchement, non, mais, la priorité, ça a été que les gens puissent continuer à voir l'émission dans de bonnes conditions. C'était le but premier, mon premier palier de Ulule, c'était ça, tu vois. Et les stickers, c'est une petite récompense que voilà, qu'on leur fait parce qu'ils ont donné quand même de l'argent et c'est normal. Et puis c'est toujours cool. Et puis ça fait de la promo aussi, mine de rien. Donc, ouais. Donc, voilà. C'est pas mal, donc. Mais on n'en a pas fabriqué, par exemple. On en a, enfin, je sais que moi, à la FAB, et on va peut-être en avoir une dizaine en plus, mais ça va s'arrêter là parce que vraiment le truc est calibré au centime près, quoi, tu vois. Donc on peut pas se permettre des fantaisies avec.
Ouais, bien sûr.
On a Comic-Con qui arrive, on a tout un tas de choses qui vont nous coûter beaucoup d'argent. Donc il faut qu'on
oui, il faut gérer les choses sérieusement.
Exactement.
D'accord.
Tout te dire même, bon. Il est même pas certain que le Ulule nous paye les hôtels. Donc peut-être que même chacun d'entre nous va devoir se payer l'hôtel.
D'accord.
Donc voilà, bon, on va se débrouiller, mais voilà.
Ok, bon bah écoutez, je pense qu'on arrive tranquillement vers la fin de l'émission, hein. On a quand même fait un petit tour de vos expériences ululiennes. Finalement, j'aurais pu anticiper, c'était beaucoup plus le Ulule de WAC et de Geek Inc. que le crowdfunding en général, mais c'était quand même intéressant de voir comment ça s'est passé de l'intérieur pour vous.
Je pense que tous les projets sont pareils, hein. Et d'ailleurs on le voit, oui. Parce que d'ailleurs il y a un projet qui a fait un peu polémique il y a pas très très longtemps. C'était un gars qui faisait un fan film sur dans l'univers de Harry Potter, mais qui se passait à New York. Je sais pas si vous aviez vu ça.
Non, j'ai pas vu.
De ce truc où en gros c'est le pendant américain de Harry Potter, quoi. Vraiment très très bien fait, hein. Là, ils avaient fait un super trailer et tout. Et le gars a mis presque un an à le sortir et il a reçu des menaces de mort, enfin tout ce que tu veux, parce que forcément les gens avaient donné de l'argent et le projet n'était pas sorti. Mais entre temps, le gars, grâce à ce trailer, s'était fait embaucher à la télé. Et du coup avait dû bosser pour la télévision pendant un petit moment.
Bien sûr.
Et le projet est finalement sorti, mais qu'un an après. Et du coup, ça avait fait un peu parler dans le sens où, le problème du crowdfunding en général, c'est que tu donnes, mais t'es pas certain d'avoir un résultat derrière. Et c'est pour ça que quand on donne dans des projets de crowdfunding, il faut toujours se dire que le risque est beaucoup plus élevé qu'avec n'importe quel autre projet. Et que de toute façon, et ça c'est la règle numéro un, si vous attendez une contrepartie, elle sera en retard. Pour moi, c'est la règle numéro un, mais même avec des projets pro, hein, je pense par exemple à la montre Pebble que j'ai reçue mais qui a été décalée pendant très longtemps. Enfin, tous les projets pour lesquels j'ai donné de l'argent, les projets high-tech en plus, surtout d'ailleurs, je ne les ai jamais reçus en temps voulu. Et des fois même, il y avait quasiment un an de retard sur la fabrication. Donc il faut être patient, il faut faire confiance aux gens, et plutôt que de toujours les enfoncer, il faut les encourager, en fait. Je pense que c'est le maître mot. Les choses vont beaucoup plus vite quand tu es encouragé et que tu te sens soutenu, plutôt que quand les gens t'enfoncent tous les jours.
Ouais, bien sûr.
Si vous voulez, en fait, quand vous soutenez un projet financièrement, il faut vous dire que vous l'avez soutenu financièrement et moralement, et que vous devez continuer, même si vous le soutenez plus financièrement après, vous devez continuer à le soutenir moralement au moins, déjà ne serait-ce que pour que vous ayez un, entre guillemets, retour sur investissement, c'est-à-dire que vous ayez au moins ce que vous avez, la contrepartie que vous avez demandé. Il faut se dire que quand vous faites du crowdfunding, en fait, c'est presque un don caritatif, j'exagère, mais non, mais on est plus dans l'optique d'un don. Et un don. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est je donne et pas forcément contre quelque chose, j'achète rien.
Oui, bien sûr.
Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Mais je trouve ça beau, en fait,
parce qu'on
peut financer tout un tas de choses et ça peut donner naissance à des projets fantastiques. Alors, je parle pas de nos émissions, hein, mais ça donne naissance à des projets assez incroyables, ou des façons de voir le monde complètement différentes. Je pense à un projet, une application, tu sais, sur les rêves. Je sais pas si tu l'as vu, Patrick.
Une application sur les rêves.
Qui est un peu trop belle pour être vraie.
Oui. J'ai pas vu, mais oui, je comprends ce que tu veux
dire. La vidéo était magnifique. En gros, c'est une appli qui te permet de loguer tous tes rêves. Et ça fait une espèce de gigantesque statistique avec, dans le monde, d'autres personnes ont rêvé de la même chose que toi à tel moment. Et faire une cartographie. Enfin, c'est très onirique, pour le coup. Et le projet m'a tellement plu. Surtout qu'à l'époque, j'étais avec un Windows Phone et que l'appli sortait que sur iOS, donc autant te dire, voilà. Depuis, je crois qu'elle est dispo, enfin, elle va être dispo sur Android aussi. Et j'ai trouvé ce projet tellement magnifique que j'ai donné de l'argent sans même, en me disant, mais c'est pas grave, même si j'ai rien. Je trouve ça tellement magique, même si, enfin, l'idée était tellement belle, si tu veux,
ouais, ouais.
que j'étais prêt à.
Tu t'es dit, je veux que ce truc existe.
Ouais, je veux que ça existe, quoi, tu vois.
D'accord.
Voilà. Après, si ça existe pas, tant pis. Mais au moins, je pourrais dire, bah, j'ai essayé, quoi, tu vois.
Ouais, ouais, d'accord. Tu t'associes. Oui, c'est un petit peu, en même temps, c'est un petit peu ce que je disais aussi, tout à l'heure, quand on parlait des gens qui ne voulaient pas de contrepartie, c'est pas incompatible, mais tu veux faire partie d'une certaine manière de
c'est
ce
ça,
projet.
C'est ça, t'associer à la réussite du projet.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Bah, enfin, moi, je le dis, hein, tous les gens qui ont donné de l'argent pour Geeking peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait parce que, ben, on y est arrivé et au final, aujourd'hui, l'émission fonctionne, vous pouvez la télécharger rapidement et, ok, on n'est pas un projet caritatif. Hein,
c'est oui, clair. C'est ce que j'allais dire. Il y a des gens aussi qui donnent de l'argent pour que les enfants africains ne meurent pas de faim, tu vois.
Pour un foyer de jeunes homosexuels à Toulouse, tu vois.
Oui, oui, non, mais bien sûr.
J'attendais rien en retour, mais.
Bien sûr.
Et le projet s'est réalisé, donc du coup, je me dis, bah, c'est génial, tu vois, c'est pas moi qui ai posé les pierres pour la construction de ce foyer.
Ouais, bah oui, c'est
ça. Je suis content que ça se soit fait. Et voilà, il y a tout un tas de choses qui m'ont convaincu dans le projet parce que les gens avaient l'air très sincères et. Et puis voilà, et puis ça m'a touché vraiment, la vidéo qu'ils ont faite m'a touché et donc j'ai donné.
Non, mais c'est un moyen effectivement de faire partie de ce genre de projet qui peuvent nous plaire.
Ouais.
Et Will, toi, tu donc sur la conclusion de toute cette affaire, peut-être les choses à retenir, les choses que tu ferais différemment si tu devais le refaire.
Si je devais faire, je referais rien différemment parce qu'au final, ça s'est c'est quand vrai. Même plutôt bien passé, quoi. Les problèmes qu'on a rencontrés, ils étaient indépendants de notre volonté. Enfin, je veux dire, c'est pas, on a fait j'ai fait tout mon possible pour que ça se passe le mieux du monde. Ça s'est passé relativement correctement. On arrive quand même au but et on arrive à faire ce qu'on avait envie de faire. Si je peux donner quand même 2-3 conseils, puisque j'ai eu des amis qui ont essayé d'en faire finalement du. Ce serait que ça donne envie quand même, hein, le financement participatif, il y en a de plus en plus qui se lancent. Je pense que c'est une bonne idée. Mais je pense qu'il faut quand même donner 2-3 conseils qui seraient au moins le premier. C'est de bien préparer, parce que moi, il m'a fallu au moins un mois pour préparer rien que le projet, hein, c'est-à-dire préparer la page, qu'est-ce que j'allais écrire, ce qu'on allait faire, avec quel argent, comment, dans quelles conditions, si on allait créer une association ou non. Donc ça m'a demandé quand même plusieurs semaines de préparation. Et il faut expliquer clairement ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on disait avant, clairement ce qu'on veut faire et bien le rédiger et après faut pas hésiter à en parler au maximum de gens possibles et imaginables.
Ouais,
Ah, tu veux dire avant de se lancer
avant et après même, hein. Enfin, après je veux dire, il faut pas hésiter à y aller. Et c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a l'impression de faire un peu la manche par moment. Ouais. Mais c'est vrai que c'est oui et non, c'est-à-dire à un moment on comprend, mais au début c'est vrai qu'on a l'impression le côté aller revenir vers tous les gens qu'on connaît et dire bon salut, je lance un truc, si tu veux m'aider, ce serait cool.
Ouais.
Ça peut être un peu perçu bizarrement, pas par les gens mais par nous-mêmes, hein, en général.
Ouais.
Mais voilà, faut bien préparer parce que moi j'ai un ami qui l'a fait et qui a écrit 3 lignes en disant qui il était mais pas vraiment ce qu'il allait faire. Bon bah il a pas levé plus de 50 euros donc.
Oui forcément. Ouais.
Voilà, faut faire. Je pense qu'il faut le faire sérieusement et ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui font quand même le plus sérieusement possible. Mais moi, je changerai rien.
Bon, alors peut-être une autre question. Est-ce que vous referiez effectivement un Ulule ou un autre type de crowdfunding, je sais pas, l'année prochaine pour la saison suivante ou
Alors, je crois qu'il y a une règle qui est qu'on peut pas en faire 2 années de suite.
D'accord. Ah ouais, c'est vrai?
Ouais.
Les rêves de William s'effondrent là.
Non. Enfin, sur Ulule, après, t'empêche d'aller faire un kiss bank bank, quoi, une Indiegogo.
Ouais. Bah, écoute, faudrait y aller.
Mais sur Ulule, il me semble que tu peux pas projeter 2 fois le même projet la même année.
Moi, après, même qu'on puisse ou qu'on puisse pas, pour l'instant, je crois que c'est pas une question qui se pose encore. J'y ai pas réfléchi, parce que là, on est déjà dans la fabrication, tout simplement, de l'émission.
Ouais.
On verra l'année prochaine. Nous, c'est pas l'objectif, hein. Pour être tout à fait honnête, l'objectif, ce serait de ne pas avoir à refaire de Ulule l'année prochaine.
D'accord. Toi non plus, Cédric? Enfin.
Ben, en fait, moi, je vais être confronté à un problème, hein, qui est que l'année prochaine, il va falloir repayer les 3500 euros de serveur.
Oui, c'est ça.
Et on aura plus d'argent. Et donc là va se poser 2 questions. Alors moi j'ai 3 modèles, hein. Soit effectivement je refais une campagne de crowdfunding sur une autre plateforme, soit on lance un système d'abonnement, comme a fait l'apéro du Capitaine par exemple. Soit la dernière solution, c'est que ben si l'émission marche bien sur KZTV et qu'ils veulent racheter les droits, Ben, on vend les droits télé pour au moins couvrir l'hébergement pendant une année. Par contre, on pourra plus. Enfin, ils bénéficieront d'une exclusivité.
Ouais, la fameuse exclusivité.
Ils pourront négocier semaine, pendant au moins une semaine, voilà. Mmh. Et auquel cas, bon, c'est pas grave, on continuera à exister sur le web pendant une. Mais il y aura un décalage d'une semaine. Bon, les gens, in fine, le verront peut-être pas plus que ça.
Bah, tout le monde n'a pas forcément accès à KZTV, en fait.
Voilà, et tu vois, il y a un truc qui est assez top, c'est que même s'il y a une exclusivité là de 24 heures, en fait, aujourd'hui, hein, elle est que de 24 heures, parce que je publie le lendemain, on peut enregistrer en live et laisser le live de l'enregistrement en ligne.
Ah oui.
Donc les gens l'avaient avant.
C'est juste l'émission pas montée, en fait.
Voilà, mais par contre, s'ils achètent les droits, on pourra toujours enregistrer en live, mais on pourra plus laisser l'enregistrement du live, forcément, puisqu'ils ont une exclusivité sur le contenu.
Ouais.
Et auquel cas, ben, ça peut être une des solutions pour nous, pour continuer à exister, c'est qu'on vende nos droits à la télé, sur KZTV ou autre, puisqu'on a eu d'autres propositions aussi depuis. Et puis on verra ça de toute façon l'année prochaine.
D'accord.
Mais a priori, ils sont très contents puisque l'émission fait l'unanimité en interne. Donc
d'accord,
peut-être que ça peut être une des solutions. Voilà.
D'accord.
Bon, on est déjà en train d'y réfléchir, hein, pour te dire.
Ok.
Ça va arriver vite.
Oui, bah c'est sûr que là, au moment où on diffuse l'émission,
oui,
on est déjà début 2014, ouais, bah, j'allais dire. 2013.
Il reste 6 mois pour trouver une solution.
Bah oui, c'est ça.
Ça va vite.
D'accord. Ok, eh ben, écoutez messieurs, comme je le disais, je pense qu'on arrive vers la conclusion de l'émission. J'espère que, chers auditeurs, vous avez passé un bon petit moment sympathique en compagnie de mes camarades William et Cédric. Comme ça, entre nous, hein, c'est les vacances, on est tranquille, on parle un petit peu de choses qui nous intéressent entre amis. Et puis, ben, avant de se quitter, je vais proposer, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, je vais proposer à mes amis de me dire et de nous dire où on peut les retrouver et où on peut retrouver leurs émissions. On va commencer par, allez, pour changer,
Cédric, hein,
William.
Ah merde.
Il fait tout le temps ça.
Ah mais non, mais c'est quel coquin ce petit Patrick, hein, dis donc. Alors nous, vous pouvez retrouver WAC du coup toutes les semaines, chaque lundi en direct à 20h, de 20h à 21h sur youtube.fr/willenco, youtube.com même, il n'y a pas de .fr, youtube.com/willenco. Vous pouvez retrouver l'émission du coup en direct les lundis de 20h à 21h et en podcast disponible normalement, on ne sait pas, mais normalement, si tout se passe bien, dès le lendemain. Parce que c'est la nouveauté de cette année. Je vous dis ça, mais on l'a pas encore fait, donc.
D'accord.
Je suis pas sûr que ce sera le cas, mais normalement ce sera le cas.
Okay.
Donc diffusé dès le lendemain en podcast sur YouTube, sur soundcloud.com/willenco et sur notre site internet, sinon willenco.fr.
Super. Et donc toi, Cédric?
Ah ben moi sur geeking.fr, sur Twitter, bah Cédric Bonnet. Et aussi une émission sur le crowdfunding que j'ai monté avec mon compère Jeff.
C'est l'histoire de miche de pain, c'est ça?
C'est ça, ouais. Non, c'est Ask My Backers.
Ah, pas ma baker, d'accord.
Baker, okay. Backer, tu vois, parce que le backer, c'est le gens qui te supporte, en anglais. donc, du coup, on s'est dit, oh, on va faire un jeu de mots bien pourri. Et donc, on va mettre une brioche. Comme ça, ça fera.
Baker.
Ouais, tu vois.
Oui, bah,
bon, bref.
Je sais, je vous en parlais dans le premier épisode, donc j'ai voulu faire une petite plaisanterie. Comme tu sais, je suis coquin, donc.
Bien sûr. Et donc, bref, donc une brioche à moustache, et ça tombe bien pour Movember. Enfin, c'est un dommage parce que là,
oui, bah, on
n'y
est plus. Mais alors, justement, bon, on n'a même pas. En fait, au final, avec toutes ces plaisanteries, on n'a même pas dit le nom de l'émission. Clairement, c'est Ask My Backer.
Ouais.
Voilà.
Et donc, en fait, l'idée, c'est une émission tout simplement sur le crowdfunding où on fait découvrir des projets en cours qu'on considère qui valent le coup d'être soutenus, avec un indice de fiabilité d'atteinte du projet ou pas, calculé par des grands scientifiques avec des équations très très précises et des algorithmes qu'on ne dévoilera pas.
D'accord.
Des projets à éviter. Donc là, on vous dit, oula, ça sent mauvais, donc n'y allez pas. Genre, c'est pas assez cuit, tu vois, la brioche est pas assez cuite, ou au contraire trop cuite.
D'accord. Bon, en gros, c'est un téléachat du crowdfunding.
Ouais, et on revient aussi sur, on fait un espèce de SAV, des projets terminés aussi, soit depuis peu, soit depuis un petit moment, voir où est-ce qu'ils en sont, si les produits sont par exemple commercialisés, en dehors des plateformes de crowdfunding et des gens qui avaient donné de l'argent. On va faire un petit suivi comme ça, des projets après leur campagne. Donc Donc voilà, on est, c'est une petite émission comme ça, si vous voulez découvrir un peu des petits projets. Il y a de tout, hein, franchement, c'est pas que du high-tech ou autre. Il y a du jeu vidéo, il y a plein de trucs. Il y aura d'accord. même des vêtements dans pas longtemps. Donc voilà, c'est, okay. C'est assez hétéroclite, comme le crowdfunding en fait.
Super. Écoute, merci bien Cédric. Ça va être tout pour cette émission un petit peu spéciale et un petit peu particulière. On sera de retour avec le rendez-vous tech beaucoup plus classique, avec des vrais sujets d'actualité et un résumé de l'actualité comme le rendez-vous tech l'est habituellement, dans une quinzaine de jours. Et je serai donc évidemment toujours là avec d'autres invités. D'autres invités, peut-être les mêmes, je sais pas, hein, on verra. Finalement, c'est dans un peu longtemps.
D'autres invités, j'en veux plus les mêmes.
Dans tous les cas, vous pouvez moi me suivre sur Twitter, par exemple, sur @notepatrick, et puis vous retrouvez cette émission et bien d'autres encore, enfin deux autres, hein, sur et il y a mon téléphone qui m'appelle sur frenchspin.com. Vous retrouverez Upload et Positron. Vous les connaissez, et si vous ne les connaissez pas, vous pouvez Positron. Aller les découvrir. sur frenchspin.com. On vous remercie beaucoup. Merci encore à vous, messieurs. Et puis, on se dit à dans 15 jours. Ciao, ciao.
Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.